Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Les états généraux de la bioéthique ont commencé depuis plusieurs semaines et ce rendez-vous du président de la République avec les citoyens, censé être un vrai débat autour des lois de bioéthique, paraît bien discret. Pour former, informer et réveiller les consciences, l'association familiale catholique du Bas-Dauphiné a organisé une conférence avec Aude Mirkovic. Elle est maître de conférences en droit privé, auteur de différents ouvrages sur la PMA, la GPA et le mariage pour tous notamment, mais aussi porte-parole des juristes pour l'enfance. Bonjour.
Bonjour.
Alors les états généraux de la bioéthique doivent permettre d'échanger et de discuter autour des principaux enjeux bioéthique en France, en vue de la modification des lois. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'enjeu de ces états généraux ?
Les états généraux, c'est une vaste consultation citoyenne qui est organisée par le Comité consultatif national d'éthique et qui a pour but d'associer les citoyens français au processus de révision de la loi bioéthique. Alors évidemment, la révision de la loi demeurera de la responsabilité du législateur. On n'est pas là pour le remplacer, mais enfin, les états généraux ont pour but que la société s'approprie ces sujets, soit informée, se renseigne, qu'on puisse en débattre, en discuter. Et à la fin des états généraux, le comité d'éthique va élaborer un rapport qui a pour objet de résumer, d'une certaine manière, de faire remonter au législateur tout ce qui aura été dit dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Donc c'est pourquoi chaque citoyen que nous sommes, non seulement peut, mais est vraiment invité à participer d'une manière ou d'une autre. On peut se rendre au débat, mais aussi on peut participer de chez soi en allant répondre aux questions sur le site internet des états généraux. Il y a beaucoup de manières de participer et ce serait dommage de ne pas saisir cette opportunité, parce que souvent on est déçu de ne pas pouvoir contribuer activement et directement au débat de société. Et bien là, nous avons l'occasion.
En tant que juriste, comment votre intérêt pour les questions de PMA et de GPA a-t-il été éveillé, puisqu'il va être beaucoup question de la PMA dans ces états généraux de la bioéthique, officiellement pas de GPA? Comment est-ce que vous êtes intéressé, vous, en tant que juriste, à ces questions-là?
En tant que juriste, moi personnellement, je suis notamment spécialisée en droit de la famille. Et bien on constate que malheureusement, certaines techniques de procréation ne respectent pas les droits des enfants. Et pour un juriste, le fait que les droits ne soient pas respectés est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc la France a ratifié notamment la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU. Ça signifie qu'elle a pris un engagement officiel vis-à-vis des enfants de respecter leurs droits. Et ce texte a une valeur supranationale, c'est-à-dire qu'il a une valeur supérieure aux droits français, et que la loi, et donc les projets de loi, doivent respecter ces engagements de la France. Et notamment, ce texte pose le droit pour chaque enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, bien sûr, parce que l'État ne peut pas garantir à tous les enfants de connaître leurs parents, ne serait-ce que parce qu'il y a des parents inconnus ou décédés. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'État ne doit rien faire qui empêche les enfants de connaître leurs parents et être élevés par eux. Or, par exemple, on a évoqué la PMA. Un projet de conception d'enfant d'une manière qui écarte délibérément et définitivement le père, mais connaît directement ce droit de l'enfant. Je ne peux pas rester les bras croisés à voir se mettre en place une législation qui organise la méconnaissance des droits d'autrui. Et c'est pourquoi je m'exprime sur le sujet, parce que je pense que chaque citoyen est concerné par la loi de son pays et de son temps, et que nous autres juristes, nous avons notre expertise à apporter pour alerter sur la méconnaissance des droits de l'enfant et pour demander aux législateurs d'assurer le respect des droits de tous, y compris ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et qui comptent sur le législateur pour protéger leurs droits, à savoir les enfants.
Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la procréation médicalement assistée et quel potentiel problème peut-elle déjà poser alors qu'elle n'est pas encore ouverte aux couples de même sexe ?
La procréation médicalement assistée, donc la PMA, où on parle aussi d'assistance médicale à la procréation, ce sont les termes de la loi, AMP, mais c'est exactement la même chose. Donc la PMA répond à un objectif thérapeutique. Donc le but est de compenser une infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée, dit la loi. Et en conséquence, la procréation médicalement assistée ne concerne que des couples composés d'un homme et d'une femme, vivant et en âge de procréer. Tout simplement parce que l'incapacité à procréer de tous les autres, des personnes célibataires, des couples de même sexe, des personnes trop âgées ou même carrément des défunts, eh bien cette incapacité à procréer n'a rien de pathologique. Elle est naturelle et n'a pas vocation à être compensée par la médecine. Et puis ce schéma thérapeutique est aussi retenu dans la perspective de l'enfant à venir de ses procréations, de telle manière que la PMA garantit à l'enfant une filiation cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation, donc des parents hommes et femmes vivant en âge de procréer au moment de sa conception.
C'est important cette notion de filiation ?
Oui, parce qu'on a parlé du droit de l'enfant dans la mesure du possible de connaître ses parents et être élevé par eux. Et on ne peut pas d'un côté proclamer des droits, parce qu'on n'a jamais autant parlé des droits de l'enfant que notre époque, et c'est tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais les droits de l'enfant ne sont pas juste bons à être proclamés, ils sont également bons à être respectés. Et le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour proclamer les droits de l'enfant, mais lorsqu'ils deviennent gênants, on a un petit peu plus de mal. Et en l'occurrence, on a du mal en matière de procréation à accepter que les droits de l'enfant puissent poser des limites à nos désirs. Alors déjà, pour répondre à votre question, la loi actuelle n'est pas totalement respectueuse des droits de l'enfant, notamment lorsqu'elle permet le recours à des donneurs. Parce que lorsque le couple ne peut pas fournir lui-même les gamètes nécessaires à la conception de l'enfant, eh bien, la loi permet de recourir aux gamètes d'un donneur, soit des spermatozoïdes, soit des ovocytes. C'est ce qu'on appelle le don de gamètes. Donc, le don de gamètes a été autorisé par la loi en 1994, et à l'époque, on a juste pensé à satisfaire le désir d'enfant des couples. On n'a pas du tout pensé aux conséquences pour les enfants, mais quelques décennies plus tard, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas que le don de gamètes n'est pas quelque chose d'anodin pour les enfants. Parce que la première génération des enfants née de dons, et aujourd'hui adulte, aujourd'hui elle s'exprime, et on voit que certains de ces enfants recherchent leur donneur, recherchent leur frère et sœur biologique, comme ils les appellent. Et bien le don de gamètes finalement nous pose une question toute simple, hein. Est-ce que c'est important ou pas d'être issu de quelqu'un ? Est-ce que le lien biologique est important en matière de filiation ? Donc on sait très bien que la filiation ne se réduit pas à relayer un lien biologique. L'adoption en est le signe le plus visible. Et enfin, quand un homme reconnaît un enfant, on ne vérifie pas qu'il n'est pas le père. Donc ça, c'est sûr que la filiation ne se réduit pas à la réalité biologique. Mais est-ce que pour autant, on peut prétendre que le lien biologique n'est rien en matière de filiation, qu'il serait si peu important ou même indifférent au point qu'on pourrait délibérément en priver un enfant ? Eh bien, la réponse est manifestement négative. J'ai l'angoisse de tous les parents à la maternité, c'est l'échange des enfants. Hein. Donc on voit bien que les enfants ne sont pas interchangeables. Il n'y a pas de raison que les parents le soient. Hein, donc déjà aujourd'hui, le recours à un don de gamètes met de côté un des géniteurs de l'enfant. Donc finalement, il prive l'enfant du support biologique de sa filiation. Et ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui mériterait d'être pensé, discuté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les difficultés liées au don de gamètes doivent nous alerter. Et que si aujourd'hui le don de gamètes n'est pas en question, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est pas le moment de le généraliser en ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, parce que dans ces cas-là, c'est la généralisation du don de gamètes, puisque on passe du don de gamètes par exception au don de gamètes systématique, parce que les femmes ont toujours besoin d'un don de gamètes. Et puis non seulement généraliser le don de gamètes, mais aussi l'aggraver, parce que l'enfant qui serait conçu d'un donneur pour une femme célibataire ou pour un couple de femmes, il serait privé non seulement de son père biologique, mais de père tout court, de lignée paternelle. Et donc ça irait beaucoup plus loin. Donc le législateur, soucieux de respecter les droits de l'enfant, ne doit pas aggraver déjà le malaise qu'il y a déjà aujourd'hui autour du don de gamètes. On verra si on peut résoudre cette question-là, mais ça ne peut pas servir de prétexte pour aller plus loin et aggraver la situation des enfants.
Vous parlez du don de gamètes, il y a quelques voix qui s'élèvent depuis quelques temps pour demander la fin de l'anonymat des donneurs. Pour vous, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle ? C'est dans ce sens-là qu'il faut se diriger ?
L'anonymat des donneurs, franchement, pour moi, c'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est loin d'être l'aspect le plus important. D'ailleurs, à chaque révision de la loi de bioéthique, l'anonymat signifie que le donneur et les receveurs, c'est-à-dire le couple, et ensuite l'enfant issu du don, ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leurs identités respectives. À chaque révision de la loi de bioéthique, l'anonymat est questionné et on discute de la possible levée de l'anonymat. Et régulièrement, la levée de l'anonymat est votée. Mais au cours du processus législatif, finalement, on revient toujours à l'anonymat. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que, malheureusement, la levée de l'anonymat pose au moins autant de problèmes que l'anonymat lui-même. Si ni l'anonymat ni sa levée ne sont complètement satisfaisants, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le don de gamètes lui-même. Parce qu'une fois qu'on a levé l'anonymat du donneur, quel peut bien être le statut du donneur ? C'est-à-dire, c'est lui qui a engendré l'enfant, mais la loi interdit d'établir tout lien de filiation entre lui et l'enfant. Donc, quelle pourrait être sa place vis-à-vis de l'enfant, de la famille de l'enfant ? Réciproquement, qu'est-ce que l'enfant pourrait demander au donneur ? Aujourd'hui, les enfants issus de dons qui s'expriment, on pense par exemple à Arthur, hein, qui a retrouvé son donneur malgré l'anonymat. Il a suffi d'un simple test génétique de salive commenté sur Internet et d'une enquête généalogique, il a retrouvé son donneur. Donc lui, aujourd'hui, comme de nombreux enfants qui s'expriment sur le sujet, dit qu'il ne cherche pas un père. Parce qu'un père, il en a déjà, il a son père légal. Mais qu'est-ce qui assure qu'un autre enfant issu du don ne recherchera pas dans le donneur un père ? Surtout si cet enfant a été conçu pour un couple de femmes ou une femme célibataire, et que justement, lui, il n'en a pas de père. Donc il ne pourra pas dire comme Arthur, j'ai déjà un père, ce que je veux savoir, c'est de qui je suis issu. Le statut du donneur, en réalité, une fois qu'il est connu, conduit dans une impasse. Donc c'est pourquoi je pense que si on veut vraiment respecter l'enfant et ses droits, eh bien c'est sur le don de gamètes lui-même qu'il faut s'interroger. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas aller plus loin dans le don de gamètes et ne pas le généraliser et l'aggraver comme on l'a dit.
On parle de filiation là depuis tout à l'heure. Certains relativisent un peu cet effacement du père en parlant de l'accouchement sous X ou de l'adoption plénière par exemple qui aboutissent finalement à un résultat qui peut sembler similaire. Dans quelle mesure est-ce que cet accouchement ou ces adoptions sont différentes pour l'enfant d'une PMA ou même d'une GPA ?
Vous avez raison, en effet, l'accouchement dans le secret, parce que c'est le terme légal hein, qu'on appelle accouchement sous X, permet à une femme qui ne désire pas révéler son identité de bénéficier d'une assistance médicale au moment de l'accouchement sans avoir à donner son identité. Et de fait, puisque l'identité de la mère n'est pas connue, l'enfant n'a pas la possibilité de la connaître et encore moins d'être élevé par elle. Et par ricochet, il en va de même du père. Également, l'adoption plénière a pour but de donner à un enfant qui a été privé par les malheurs de sa vie de ses parents d'origine, des parents adoptifs. Et si on veut que la famille adoptive devienne vraiment la famille de l'enfant, il est absolument indispensable que l'adoption soit définitive, irrévocable. Et si elle pouvait en permanence être remise en cause par la découverte ou la survenue des parents biologiques, la famille adoptive de l'enfant ne serait jamais qu'une famille d'accueil. Et on sait très bien qu'une famille d'accueil ne rend pas du tout le même service à l'enfant et ne joue pas le même rôle. Donc ces deux institutions, ces deux législations, de l'accouchement dans le secret et de l'adoption plénière, en effet, mettent de côté les parents biologiques. Mais pour autant, ça n'a rien à voir avec la PMA sans père, avec la PMA avec donneur, tout simplement parce que l'accouchement dans le secret et l'adoption plénière, ce sont des mesures qui interviennent dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que ce ne sont pas des modèles à promouvoir, ce sont des mesures de crise. Si on permet à la femme d'accoucher dans le secret, c'est parce qu'on pense qu'il vaut mieux que, tant pis, elle ne donne pas son identité, mais qu'elle puisse accoucher à l'hôpital, plutôt que d'accoucher dans la rue ou n'importe où, et qu'on retrouve ensuite l'enfant dans une poubelle, ou qu'il soit abandonné, voire même qu'il fasse l'objet d'un infanticide. Est-ce que cette mesure est opportune ? Est-ce que dans les pays qui n'ont pas l'accouchement dans le secret, il y a plus d'infanticide ? Il faudrait voir, peut-être que cette mesure n'est pas indispensable. N'empêche qu'elle vise à sauvegarder la vie de l'enfant, finalement, et en tant que telle, elle est justifiée, y compris au regard du droit de l'enfant. Et c'est pareil pour l'adoption plénière. L'adoption ne prive les enfants de rien. Elle intervient au profit d'enfants qui ont été privés, ça oui, par les malheurs de la vie de leurs parents. Mais l'adoption en elle-même ne prive pas les enfants de leurs parents. Elle répare le fait qu'ils n'aient pas de parents, ce qui est tout à fait différent. Et au contraire, le recours à des donneurs dans le cadre de la procréation médicalement assistée met de côté un des parents biologiques de l'enfant, pas du tout dans l'intérêt de l'enfant, mais pour satisfaire le désir d'autrui. Et c'est pourquoi l'accouchement dans le secret et surtout l'adoption plénière ne peuvent pas servir de prétexte pour priver délibérément des enfants d'un de leurs parents, de leur père par PMA ou de leur mère par GPA.
On a commencé cet entretien en parlant des droits de l'enfant. Ce que vous dites me fait réagir sur le droit à l'enfant qui est en train de plus en plus d'inonder un peu notre société aujourd'hui. Quelle différence ? Et puis surtout, pourquoi est-ce que ce pseudo-droit à l'enfant pourrait être dangereux ?
Les droits de l'enfant, c'est tout simplement des prérogatives que l'État reconnaît à l'enfant en tant qu'il est enfant, c'est-à-dire en tant qu'il est vulnérable et que lui-même ne peut pas défendre ses intérêts. C'est pourquoi la loi supplée et à cette incapacité de l'enfant à se défendre tout seul en posant des garanties. Par exemple, la loi lui garantit de connaître, dans la mesure du possible, ses parents et être élevé par eux, pour éviter que des adultes se partagent l'enfant, s'arrangent entre eux par contrat de savoir à qui appartient l'enfant, qui va l'avoir, qui sera désigné comme parent, etc. Donc la loi pose des droits pour les enfants qui sont donc des garanties que la loi apporte pour tenir compte de sa situation de vulnérabilité. Au contraire, le droit à l'enfant s'implante dans notre société à chaque fois qu'on accepte de mettre de côté les droits de l'enfant pour réaliser le désir d'autrui. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un désire un enfant, mais que la satisfaction de ce désir suppose de malmener les droits de l'enfant, normalement, dans un état de droit digne de ce nom, la satisfaction des désirs des uns trouve sa limite dans les droits des autres. Donc si mon désir suppose de malmener les droits d'autrui, je dois renoncer à ce désir. Habituellement, c'est ce que la loi fait. Elle dit non à certains désirs. Par exemple, la GPA, la loi interdit la gestation pour autrui, parce que, en dépit des bonnes intentions, la réalité, c'est que la gestation pour autrui méconnaît les droits des femmes et ceux des enfants. Voilà, donc c'est non. Mais parfois, le législateur a du mal soit à réaliser que certaines revendications méconnaissent les droits des enfants, soit, tout en le réalisant, il n'a pas le courage de faire primer les droits des enfants. Par exemple, on le voit avec cette revendication de la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. On parle toujours des femmes, on ne parle jamais des enfants. Or, ces PMA reviennent à organiser légalement la conception d'enfants privés de père. Rien que ça, ça suffit à dire non. On ne devrait même pas aller plus loin dans le débat. Visiblement, il est nécessaire d'expliquer plus. Donc c'est pour ça que je suis là, hein, en votre compagnie aujourd'hui, pour expliquer que concevoir des enfants qui seront délibérément et définitivement privés de leur père, c'est une injustice. Et que si c'est une injustice, eh bien la loi ne peut pas l'organiser. Il y a déjà assez d'enfants privés de père comme ça, hein, la société les accueille comme les autres, mais ce n'est pas une raison pour organiser délibérément et légalement la privation de père.
Comment expliquer alors que plus d'un Français sur deux, d'après le sondage IFOP publié par Lacroix sorti en début d'année, là, 60% des Français se disent favorables à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes. Finalement, est-ce qu'il faut aller contre la majorité des Français ?
La majorité des Français ne veut pas que les enfants soient exprès et délibérément privés d'un de leurs parents. C'est-à-dire que tout dépend de la façon dont la question est posée. Encore une fois, on ne parle jamais que des adultes, de leur désir d'enfant, de leurs souffrances, qui sont légitimes et qui sont à accompagner et qui sont à prendre en considération dans la mesure du possible. Mais encore une fois, le fait d'avoir un désir ne donne pas tous les droits. Et la satisfaction des désirs des adultes trouve sa limite dans le respect des droits de l'enfant. Donc je suis persuadée que si on posait la question aux Français du côté de l'enfant, c'est-à-dire je vais poser la question aux gens qui nous écoutent, pensez-vous que la loi doive organiser la conception d'enfants qui seront légalement privés de père ou de mère? Et je pense que la réponse serait tout à fait différente. Parce qu'évidemment, si on demande aux gens, est-ce que vous pensez que deux femmes ou une femme célibataire qui a beaucoup d'amour à donner, qui a un désir d'enfant, peut avoir un enfant? Et tout le monde dit oui. Mais une fois qu'on réalise que la satisfaction de ce beau désir suppose de priver un enfant de père, alors il faut ouvrir les yeux et se dire que, eh bien non, réparer une souffrance ne peut pas se faire au prix de créer une autre souffrance infligée à un enfant, au passage au mépris de ses droits. Les sondages peuvent servir de point de départ pour des réflexions, pour des explications, pour des débats, mais les sondages sont extrêmement manipulables parce que selon la manière dont on pose les questions, on obtient des conclusions vraiment différentes. Ça ne vous aura pas échappé que dans ce débat, il n'est jamais question des enfants, parce que justement, une fois qu'on a réalisé que ces techniques de PMA et de GPA malheureusement organisent la privation de père ou la privation de la mère, on ne peut qu'y renoncer. Et donc c'est pourquoi il est urgent de remettre l'enfant et le respect de ses droits au centre de notre législation. Et les états généraux de la bioéthique donnent cette possibilité, donnent cette chance.
L'avis négatif rendu par le comité d'éthique sur la GPA, du coup vous satisfait, mais en tout cas vous rassure un petit peu sur l'évolution de la situation, ou est-ce que finalement, si on ouvre la PMA à toutes les femmes au principe de l'égalité, on sera forcément un jour obligé d'autoriser la GPA?
Alors évidemment, je me réjouis que le comité d'éthique ait rendu un avis défavorable à la gestation pour autrui, pour de très nombreuses raisons qui sont très bien mises en évidence et qu'on n'a pas le temps de détailler ici, mais on peut aller lire cet avis sur internet très facilement. En effet, la gestation pour autrui méconnaît la dignité de la femme et celle de l'enfant qui est l'objet d'un contrat les adultes se mettent d'accord entre eux pour décider du sort d'un enfant, au mépris de sa dignité humaine et de ses droits. Donc oui, je me réjouis de ce que la société française aujourd'hui réalise que la gestation pour autrui n'est pas admissible et la pseudo-GPA éthique n'existe pas. Hein. On n'encadre pas une pratique contraire à la dignité humaine. On a tous vu les images de la vente d'esclaves en Libye. C'est comme si on disait on va encadrer la vente d'esclaves. Par exemple, on va rendre obligatoire une visite médicale avant qu'il soit vendu. Ce serait complètement absurde. Non, ce qu'il faut, c'est faire échec à ces pratiques. Ben, c'est pareil avec la gestation pour autrui qui entraîne ce qui n'est rien de moins qu'une commande et ensuite une livraison d'un enfant. Et donc ça, y compris encadré, ça restera une vente d'enfants. En revanche, il faut aussi être réaliste. C'est-à-dire que la PMA pour les femmes, elle est revendiquée au nom d'une soi-disant inégalité qui frapperait les femmes qui n'ont pas accès à la PMA. Il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas là d'inégalité. Personne n'a droit à la PMA. Les couples qui sont fertiles n'ont pas le droit à la PMA. Seuls ceux qui souffrent d'une infertilité pathologique ont accès à la PMA. Et pourtant, les couples hommes-femmes fertiles ne souffrent pas de discrimination pour cela. De la même manière, les couples âgés n'ont pas non plus accès à la PMA. Est-ce qu'ils sont pour autant discriminés? Non, pas du tout. Hein, tout simplement parce que l'égalité ne signifie pas de traiter tout le monde de la même manière, ce qui peut se révéler très injuste, mais elle suppose de traiter de la même manière ceux qui sont dans la même situation ou des situations équivalentes. Or, le Conseil constitutionnel l'a dit, la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit à propos de la loi française sur la PMA, un couple de femmes ou une femme célibataire, au regard de la procréation, ne se trouve pas dans une situation équivalente à celle d'un couple homme-femme infertile. Par conséquent, il n'y a aucune inégalité à permettre la PMA pour les uns et non pour les autres. D'autant plus que, sous prétexte que de réparer une inégalité qui en réalité est imaginaire, qui n'existe pas, on s'apprête à organiser une inégalité bien réelle cette fois entre les enfants, entre ceux qui auraient la possibilité d'avoir un père et de le rechercher, et puis ceux qui seraient privés définitivement par la loi de toute possibilité d'avoir un père. L'inégalité, elle est réelle, mais elle serait entre les enfants. Si on s'engouffre dans une idée erronée de l'égalité, c'est-à-dire que si on voit dans les différences naturelles des injustices auxquelles la loi devrait remédier, cette idée erronée de l'égalité va conduire forcément à la GPA, parce que les hommes, naturellement, ils ne peuvent pas procréer. Donc si les différences naturelles sont des injustices, il faut y remédier aussi. Et par conséquent, il sera nécessaire, une fois admise la PMA pour les femmes, d'organiser la GPA pour les hommes. Donc ceux qui nous promettent une PMA pour les femmes sans GPA, soit se trompent, soit nous mentent. Mais dans les deux cas, ça ne va pas du tout. Bon, mais même sans GPA, de toute façon, déjà, la PMA pour les femmes entraîne une grave injustice pour les enfants. Donc en tant que tel, de toute façon, le législateur ne peut pas l'organiser.
Merci beaucoup, Ad Mirkovic, pour toutes ces infos qui nous permettent de pouvoir réfléchir, réagir et puis de participer à ces états généraux de la bioéthique, puisqu'on le rappelle, c'est important.
Eh bien, merci à vous.